Et aujourd'hui, Sophie Bobert nous propose d'écouter Abnous Chalmani. C'est une autrice iranienne et elle nous parle de son enfance en Iran, du communisme et puis de son exil à Paris. Mais ça commence à Téhéran.
Ah, les paysages, ça commence avec le nord de l'Iran, qui est de Téhéran, qui est le plus beau quartier de Téhéran parce que tout a été détruit, reconstruit. C'est assez moche, Téhéran. Mais dans le nord, il y a ce qui a été préservé, il y a les vieilles maisons. Donc cette espèce d'ambiance, toutes les portes étaient ouvertes et les montagnes derrière, c'est mon premier souvenir de Téhéran. Et après évidemment la mer Caspienne, là, c'est la première fois que je voyais la mer. Donc voilà, l'Iran pour moi c'est un mélange entre les montagnes au-dessus de Téhéran et la mer Caspienne, cette mer fermée, pleine de caviar.
Vous êtes issue d'un couple d'intellectuels, plutôt laïcs. Votre père dirigeait un laboratoire de chimie et votre mère, je crois, était secrétaire. Mais voilà, vous êtes née 2 ans avant la Révolution, avec des femmes qui, en 48 heures, se sont couvertes de voiles noires.
C'était horrible. C'était horrible parce que même enfant, on voit la différence. L'Iran, comme beaucoup de pays orientaux, c'est quand même beaucoup de couleurs, c'est quand même beaucoup de décolletés, c'est quand même beaucoup de bijoux, c'est quand même donc beaucoup de bruit, de fureur, de beauté. Moi, j'ai été jusqu'à la Révolution, jusqu'au moment où le voile a été imposé, c'est-à-dire le jour de mes 2 ans, le 1er avril 79. Et c'était lié, les femmes pour moi étaient liées à la couleur, à la beauté, et tout d'un coup, toutes les femmes ont disparu. Parce que le fait de plus avoir de singularité, c'est quand même la disparition des femmes. Il n'y avait plus de singularité, il y avait de l'anonymat qui s'était installé, mes tantes se ressemblaient toutes, il n'y avait plus de singularité, plus de personnalité, plus de femmes. C'était assez terrifiant, et surtout c'était triste de voir ces rues, tout d'un coup si colorées, si joyeuses, devenir et silencieuses, plus de rire, plus que des visages, et des visages, mais d'une tristesse.
Et puis, à l'âge de 9 ans, votre famille décide de quitter l'Iran. Ça devient trop dangereux ou trop triste, sans doute. Et vous arrivez à Paris. Vous racontez dans votre livre « Les exilés meurent aussi d'amour », le choc de l'arrivée, la laideur de votre nouvelle maison et aussi votre solitude d'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, dans ce livre, passe de nombreux mois caché sous le canapé, accompagné d'un dictionnaire et de bonbons à attendre, hein, des jours meilleurs.
Oui, c'est ça. J'ai trouvé cette métaphore assez intéressante parce que je n'ai pas passé personnellement ma vie sous le canapé. Mais il me fallait, pour un roman, de visualiser cette espèce d'isolement, de solitude, de tristesse et cette espèce de brouhaha, parce que on est quand même dans un autre pays, donc la langue pratiquée à la maison reste l'iranien, mais en dehors, on n'entend rien. C'est comme si on avait du coton dans les oreilles. Donc c'est très compliqué de trouver son équilibre quand on comprend pas ce qui se passe. Dès qu'on allait à l'extérieur, c'était un espèce de sentiment de encore plus marqué de solitude, encore plus que quand on était à l'intérieur de la maison. C'était très étrange, c'était laid, c'était seul. Et la langue, je pense que ça a commencé avec la langue, c'est la langue qui m'a sauvée, c'est ce dictionnaire qui m'a sauvée. Parce qu'en plus, je n'étais pas à l'école. On est arrivé en février 85 et je suis rentrée à l'école en septembre 85. Donc tous ces mois-là se sont passés en tête-à-tête avec Victor Hugo, mon père et un dictionnaire. Et ça a été, je pense que c'est interminable. C'est une espèce de boîte à trésors de sentiments, d'émotions que j'ai, que je pourrais exploiter toute ma vie, parce que je n'oublierai jamais ces mois-là. C'était la découverte, d'abord l'angoisse et ensuite la baguette magique. Ce qu'une langue peut faire. C'était magique.
Quels sont les auteurs qui ont porté la jeune Abnous Chalmani, adolescente?
Évidemment, Victor Hugo, mais ça, Victor Hugo pour tellement de gens. Mais Victor Hugo, c'est vraiment la France, c'est magnifique, c'est une langue, c'est sublime, moi j'adore.
À quel âge, Abnous Chalmani, avez-vous pris conscience des différentes forces politiques et de leur perversité?
Oh, les forces politiques depuis toujours. Je suis née dans une famille communiste. C'est pas quelque chose dont on s'en débarrasse comme ça. Donc, dans ma famille, on s'engueulait entre trotskistes et staliniens. Je crois que le premier mot que j'ai dit après papa, maman, ça a été Marx. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'occupait enfant. Et effectivement, à l'âge de 17 ans au lycée, où on commence à être sérieusement politisé, j'étais en plus dans le Marais, lycée Victor Hugo, évidemment, rue de Sévigné. Et là, je découvrais des jeunes de mon âge, de 17 ans, qui vivaient dans des appartements dingues, dingue, avec des bibliothèques interminables, et qui étaient absolument tous trotskistes, et qui m'invitaient pour la seule raison que c'était tellement chic d'avoir une réfugiée politique iranienne à table, et où mon devoir était de parler de l'Iran et de ce que je pensais de la situation avec les parents, parce qu'évidemment là les parents étaient ravis de recevoir une authentique réfugiée politique, une authentique communiste qui avait souffert le martyr dans le pays. Bon, qu'importe que j'ai eu 2 ans pendant la révolution, ça faisait illusion quand même. Donc effectivement c'était un petit peu gênant, et je me rendais compte que ce que je pensais être une tare qui était le fait d'être née ailleurs et d'être née dans une famille de gauche, et bien dans la bourgeoisie française de gauche, et bien c'était mon ticket d'entrée.
De l'Iran à la gauche caviar, donc à lire d'Abnous Chalmani, Les exilés meurent d'amour aussi, et c'est publié chez Grasset.